Chapitre 2. Il nous faut dire quelques mots de cette amie de la marquise. Si nous nous occupons d'elle, ce n'est pas que le personnage soit fort intéressant, ni que, dans les tableaux que nous nous proposons d'esquisser, il serve à remplir un autre rôle que celui de repoussoir, mais quand on met un acteur en scène, il faut au moins le faire connaître. Dona Eufrasia était veuve du colonel Matamoros, l'un de ses chefs improvisés pendant la guerre de l'indépendance. Quand son époux, le défunt colonel, n'était encore qu'un partisan, il avait coutume de chanter en s'adressant à la fille d'un aubergiste navarrois, grosse gaillarde, vive, alerte, bien portante, solide au moral comme au physique, le couplet suivant. « Au diable les Pékins, je te promets, ma brunette, que quand je serai colonel, tu seras madame la colonelle. » Ce qui fut dit fut fait. Et quand la guerre de l'indépendance, ce singulier chef arriva à commander un régiment de dragons, l'oracle s'accomplit et la fille de l'aubergiste chevaucha Califourchon à ses côtés avec une grâce et une vigueur dignes d'un cirque équestre. Dans ses excursions guerrières, notre virago portait des pantalons à la mameloupe, une veste militaire ornée de brandebourgs, sur la manche de laquelle brillaient trois galons d'or comme trois rayons de soleil. Sa tête était coiffée d'un petit képi à la polonaise, ornée d'une cocarde large comme une assiette et surmontée de plumes noires que le vent rejetait en arrière lorsqu'elle se lançait au galop comme la fumée d'un bateau à vapeur. Les soldats s'enthousiasmaient à sa vue. L'intrépide Amazone avait un succès fou parmi la troupe. Pour suivre leur colonel et son drapeau, les soldats eussent passé non seulement au travers du feu, mais au travers de l'eau. « Quelle intrépide femme !» Ces mots retentissaient, et avec raison, de toutes parts, et ils résonnèrent si souvent à ses oreilles qu'elle finit par se les approprier et s'identifier avec eux comme avec un surnom. En véritable navarroise, Dona Eufrasia fut toujours vertueuse et bon nombre de soufflets, distribués çà et là, avaient solidement cimenté sa respectabilité dans tous les campements. Quand ce charitable avertissement était adressé à un ancien camarade de la maison paternelle, portant épaulette de laine, il s'y conformait sans mot dire, en vertu du proverbe « Ruade de jument ne tue pas le cheval ». Si le souffleté portait l'épaulette d'argent, la colonelle avait sa réponse toute prête dans cet axiome chevaleresque et toujours vrai « Soufflet de blanche main n'offense pas l'honneur ». Mais au moment où nous sommes arrivés, tout avait disparu, et la guerre, et les commandements, et le colonel, et la sentinelle à la porte, et la jeunesse, et la beauté. Il ne restait plus à Dona Eufrasia que le verbe haut, le ton décidé, et une impertinente prétention de s'arroger un droit de veto sur toute chose, de même que la douane impose son cachet. Les personnes sans gêne jouissent malheureusement dans le monde de trop de privilèges. C'est une preuve qu'on cède plus facilement à une tyrannie déraisonnable qu'on ne se laisse convaincre par les sages enseignements d'un mérite modeste. Aussi, à Eufrasia, que personne ne pouvait souffrir, s'était-elle imposée chez tout le monde, et, ferme sur ses ergots, dans le poste qu'elle avait pris d'assaut, elle défiait le plus fort de l'enfer des guerpires. Si, parfois, quelqu'un peu endurant ou de mauvaise humeur lui adressait une parole un peu vive ou piquante, le dard venait s'émousser sur la double cuirasse que portait l'Amazone, à savoir le manque de tact qui l'empêchait de sentir les pointes et le grossier égoïsme sur lequel venait s'émousser le tranchant. Curieuse, tracassière, importune, elle voulait tout savoir, et si, à force d'adresse, on parvenait à éluder les questions, elle mettait en jeu, pour arriver à son but, les moyens les plus indélicats et les plus ignobles, et ne reculait pas à questionner les domestiques, et même à se glisser dans les appartements et à fouiller parmi les papiers, et tout cela sans même soupçonner qu'elle commettait une bassesse. Malgré son caractère volontaire et despotique, la marquise avait laissé prendre sur elle, à Dona Eufrasia, un empire incontestable et se soumettait à ses idées avec la docilité d'un enfant. Il est certain qu'en fait de cuisine et d'économie domestique, la fille de l'aubergiste navarrois possédait d'excellentes notions. Mais là se bornait sa science, ce qui ne l'empêchait pas de trancher en toute matière et de lancer, à tort et à travers, ses redoutables arrêts. Comme il arrive à tout étranger qui exerce une influence occulte sur le chef de la famille, Doña Eufrasia était cordialement détestée chez la marquise de Cortegane et particulièrement par ses filles, auxquelles elle attirait sans cesse quelques philippiques maternelles dues à ses peu charitables instigations. Comme tout être pauvre, ignorant et vieux, qui ne sait pas se tenir à sa place, c'est-à-dire dans l'ombre, ce débris féminin de la guerre de l'indépendance était pour tout le monde un objet fastidieux et ridicule. Mais elle ne s'en apercevait pas, et si on le lui eût dit, elle n'eût pas voulu le croire. L'amour-propre est une espèce d'ophtalmie. Il y a des aveugles qui savent la dissimuler avec finesse quand ils sont doués d'un tact exquis. Mais il en est d'autres qui, maladroitement intrépides, marchent le front levé, heurtant tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. La veuve du colonel appartenait, au moral, à cette dernière catégorie d'aveugles. Ajoutons à ce portrait, prise au daguerréotype, que sans le savoir, elle s'habillait de la manière la plus ridicule, ayant conservé sa coiffure d'autrefois, les vieilles modes et les bijoux de pacotille qui faisaient le fond de sa garde-robe. Elle portait perruque, mais une perruque de telle dimension et si grossièrement faite qu'elle lui donnait l'air d'un vrai cuirassier. Pour légitimer cette chevelure illégitime, Doña Eufrasia prétendait avoir perdu sa magnifique chevelure naturelle en buvant dans un vase où était tombé un lézard. Au milieu de ces aspérités de langage surgissait parfois un mot bien choisi, mais appliqué hors de propos, un mot recueilli dans le beau monde où, comme tant d'autres, elle était accueillie par cette tolérance que les étrangers reprochent avec raison à la société espagnole. Un certain jour de fête, soit en vertu de quelque vœu, soit à cause de son détestable goût, elle se présenta dans le salon de la marquise, vêtue de violet de la tête aux pieds. À cette apparition, le groupe des jeunes filles resta ébahi. « Hélas !» s'écria l'une d'elles, « Doña Eufrasia serait-elle tombée dans la chaudière d'un teinturier ?»« Bah ! » fit une autre, « quelle chaudière serait capable de contenir cette double mappemonde ?» La véritable raison de ce costume, c'est que la colonelle vient d'être nommée évêque, dit Allegria. Égare à la confirmation, s'écria vivement Doña Eufrasia, qui avait tout entendu en lançant autour d'elle des regards flamboyants. Puis, faisant de la main un geste significatif, elle poursuivit majestueusement sa marche triomphale. Un autre jour, elle parut, vêtue d'un costume entièrement garni de fourrure, y compris le bonnet, rejetant de quelques bonnets de grenadier, dépouilles aux pimes conquises pendant la guerre de l'indépendance. « C'est Robinson Crusoe et en personne qui revient dans ce monde !» dit Allegria. « Non pas !» répliqua une autre. « C'est quelque vieil uniforme de défunt son mari, piqué des vers comme celle qui le porte. Dieu, quel regard furieux elle nous lance !» « Attendez, je vais la madouer et tâcher de faire danser l'ours, » dit Paco Guzman, jeune cavalier d'Astramadour, spirituel et léger, l'un des adorateurs d'Allegria. « Prenez garde, la colonelle n'entend pas la plaisanterie, » lui dit Allegria. Mais sans écouter la recommandation, Paco Guzman avait abordé la fourrure ambulante. « Je comprends enfin, grâce à vous, lui dit-il, l'effet qu'a dû produire au théâtre l'apparition de la moscovite sensible. « Et moi, répliqua la colonelle, je ne comprends pas votre prétention à descendre des Guzman. » Par cette phrase à double entente, comme une épée à double tranchant, Doña Eufrasia faisait allusion au doute émis par quelques personnes malveillantes sur les droits nobiliaires de la famille de Paco Guzman. « Je ne disconviens pas, répliqua Guzman en ricanant, que les illustrations modernes ont sur les anciennes un immense avantage. Leur origine peut être vérifiée par tout le monde, surtout lorsqu'elle date de ce que vous appelez pompeusement la guerre de l'indépendance. « Osez-vous bien ? » s'écria furieuse l'ardente Navarroise. « Rabaisser une guerre qui a fait l'admiration du monde entier ?» Je te le dis franchement, marquise, on entend dans ta maison des propos si scandaleux que je n'y remettrai pas les pieds si ce n'était pour le chocolat, dit un domestique en présentant à Doña Eufrasia la tasse et les biscuits que, de temps immémorial, on lui servait à l'entrée de la nuit. Juan, dit-elle au domestique en changeant tout à coup de ton, Dis à la cuisinière que hier son chocolat n'était pas assez cuit. Ce n'est pas trois, c'est quatre ou cinq fois qu'il faut le faire monter, puis le laisser bien reposer. Ensuite, je te préviens que ce soir les biscuits ne sont pas frais. Ils sont d'hier. Veille à ce que le pâtissier ne te mette pas dedans une autre fois.